Chapitre 28.
Je ne devrais pas y aller, fit le consul.
Seul et lui venaient de transporter Etmastine, toujours inconscient, du tombeau où il se trouvait jusqu'au sphinx.
Pendant ce temps, le père Duret veillait sur Brown Lamia. Il était presque minuit. La vallée était faiblement éclairée par la lueur des tombeaux. Les ailes du sphinx se découpaient sur la partie visible du ciel entre les falaises.
Brown était immobile. Le câble obscène se perdait dans les ténèbres de la galerie.
Sol toucha l'épaule du consul.
Nous en avons déjà discuté. Il faut que vous y alliez.
Le consul secoua la tête. Il caressa machinalement le vieux tapis Hawking.
Il pourrait peut-être emporter deux personnes. Duret et vous, vous parviendrez sans peine à l'endroit où le Bénarès est ancré.
Sol secoua la tête. Il berça doucement le bébé en lui tenant la nuque.
Rachel n'a plus que 2 jours. Ma place est ici.
Le consul regarda autour de lui. Une immense douleur se lisait dans ses yeux.
La mienne aussi est ici. Le Gritch va...
Le père Duret se pencha en avant. La lumière du tombeau derrière lui faisait jouer des reflets sur son front et sur ses pommettes osseuses.
Si vous voulez rester ici, mon fils, c'est uniquement parce que vous cherchez à vous suicider. En ramenant votre vaisseau, vous aiderez Lamia et le Templier.
Le consul se frotta la joue. Il était extrêmement las.
Il y a de la place pour vous sur le tapis, mon père.
Duret eut un sourire.
Quel que soit le sort qui m'est destiné, je sais que c'est ici que je devrais l'affronter. J'attendrai votre retour avec les autres.
Le consul secoua de nouveau la tête. Il prit cependant place, les jambes croisées, sur le tapis, tirant son gros sac à côté de lui. Il compta les rations et les gourdes que Sol y avait rangées.
Il y en a trop, dit-il. Ces provisions risquent de vous manquer.
Nous en avons largement assez pour 4 jours, grâce à Ashlamia,
répliqua le père Duret en souriant.
Après cela, si nous sommes obligés de jeûner, ce ne sera pas nouveau pour moi.
Mais si Kassad et Silenus reviennent,
il y aura assez d'eau pour tout le monde. Et rien ne vous empêche de retourner chercher d'autres rations à la forteresse en cas de besoin.
Le consul soupira.
Très bien, dit-il.
Il manipula les fils de commande appropriés, et les 2 mètres de tapis se raidirent et se soulevèrent de 10 centimètres au-dessus de la roche. S'il y avait une modulation dans les champs magnétiques incertains, elle n'était pas discernable.
Vous allez avoir besoin d'oxygène pour la traversée des montagnes, lui dit Sol.
Le consul tira le masque à osmose de son paquetage. Sol lui tendit le pistolet automatique de Lamia.
Je ne peux pas.
Vous savez bien qu'il ne nous sert à rien contre le Gritch, murmura le vieil érudit. Mais il vous permettra peut-être d'arriver entier à Kitz.
Le consul hocha la tête et rangea l'arme dans son sac. Il serra la main du prêtre, puis celle de Sol. Les petits doigts de Rachel lui frôlèrent le bras.
Bonne chance, lui souhaita Duret. Que Dieu vous accompagne.
Le consul inclina la tête, tira sur les fils de commande et se pencha en avant tandis que le tapis Hawking grimpait de 5 mètres, oscillant à peine, et glissait en avant comme sur des rails invisibles. Il inclina le tapis sur la droite à l'entrée de la vallée, passa à 10 mètres au-dessus des dunes, puis vira sur la gauche en direction des terres désertiques. Les 4 silhouettes, 2 debout et 2 couchés, en haut de l'escalier du sphinx, paraissaient minuscules. Il ne distinguait même pas le bébé dans les bras de Sol. Comme prévu, il se dirigea d'abord vers l'ouest, où se trouvait la cité des poètes, dans l'espoir de repérer Martin Silenus. Son intuition lui disait que leur irascible compagnon avait dû faire un détour par là. Les lumières des combats dans le ciel étaient un peu moins fréquentes, et le consul fut obligé de descendre à 20 mètres pour explorer les zones d'ombre parmi les tours et les dômes en ruine de la cité. Mais il ne vit aucun signe de présence du poète. Si Brown et lui étaient passés par là, même les traces de leurs pas avaient été effacées par les vents de la nuit qui faisaient maintenant voler les cheveux clairsemés du consul et claquer ses vêtements. Il faisait froid à cette altitude. Le tapis Hawking était agité de vibrations et de trépidations tandis qu'il traversait des lignes de force instables. Entre le champ magnétique sournois d'Hyperion et l'âge des commandes de vol EM, il y avait de fortes chances pour que le tapis dégringole avant qu'il ne soit en vue de la capitale. Il cria plusieurs fois le nom de Martin Silenus, mais n'eut aucune autre réponse que l'envol affolé des colombes qui nichaient sous le dôme fracassé de l'une des anciennes galeries marchandes. Il secoua la tête et vira vers le sud, en direction de la chaîne bridée. Par son grand-père Mérine, le consul connaissait l'histoire du tapis Hawking qu'il montait. C'était l'un des premiers qu'avait fabriqué Vladimir Cholokov, maître lépidoptériste et ingénieur système EM renommé dans le Reds tout entier. Cette pièce était peut-être celle-là même qu'il avait offerte à sa jeune nièce. L'amour qu'il lui portait était devenu légendaire, de même que le fait que la jeune fille avait dédaigné son présent. D'autres, cependant, avaient adoré cette idée. Il avait fallu bientôt interdire les tapis Hawking sur les mondes où l'on voulait maintenir une réglementation efficace de la circulation aérienne. Mais ils étaient toujours utilisés sur les planètes coloniales. Et c'était ce tapis qui avait permis au grand-père du consul de rencontrer sa grand-mère Siri sur Alliance Maui. Il leva les yeux pour voir les premiers pics montagneux. En 10 minutes de vol, il avait déjà traversé un espace qu'ils avaient mis 2 heures à parcourir à pied. Les autres lui avaient demandé de ne pas s'arrêter à la forteresse de Chronos pour y chercher Silenus. S'il était arrivé là-bas quelque chose au poète, le consul pourrait y subir le même sort avant que son voyage eût commencé. Il se contenta donc de survoler les bâtiments qui surplombaient le vide de 200 mètres et d'opérer un passage tout près de la terrasse d'où ils avaient contemplé la vallée 3 jours plus tôt. Il cria de nouveau le nom du poète, mais seul l'écho lui répondit, répercuté dans les corridors noirs et les salles de banquet de la forteresse. Il s'agrippait fermement au bord du tapis, se sentant vulnérable à cause de la proximité des falaises. Il poussa un soupir de soulagement quand il laissa la forteresse derrière lui pour gagner de l'altitude, en direction des cols où la neige brillait sous la clarté des étoiles. Il suivit les câbles du téléphérique reliant à travers le vide les pics qui culminaient à 9000 mètres d'altitude. Le froid était vif et le consul se félicita d'avoir pris le manteau chauffant de rechange que lui avait donné Kassad. Il faisait très attention de ne pas exposer ses mains ni ses joues à l'air libre. Le gel du masque à osmose lui couvrait le visage comme un symbiote affamé, happant le peu d'oxygène que l'atmosphère raréfiée pouvait fournir. C'était cependant suffisant. Il respirait par petites gorgées très lentes, tout en volant à une 10aine de mètres au-dessus des câbles enrobés de glace. Aucune cabine de téléphérique n'était en vue. La sensation d'isolement, au-dessus des pics nus, des glaciers et des vallées plongées dans l'ombre, était à la limite du supportable. Le consul était cependant heureux d'avoir entrepris ce voyage, qui lui permettait d'admirer, peut-être pour la dernière fois, la terrible beauté d'Hyperion, que ne gâtait ici ni la menace du Gritch, ni celle de l'invasion extro. Le téléphérique avait mis 12 heures pour traverser les montagnes du sud au nord. Malgré la faible vitesse du tapis Hawking, qui n'évoluait guère à plus de 20 km/h, le consul accomplit le voyage en 6 heures. Il survolait encore les sommets lorsque le soleil se leva. Il se réveilla en sursaut, réalisant avec effroi qu'il s'était endormi, perdu dans ses rêves, alors que le tapis se dirigeait vers un pic qui dépassait d'au moins 5 mètres son altitude de vol. Il distinguait, 50 mètres plus loin, les champs de neige et les rochers. Un oiseau noir de 3 mètres d'envergure, un de ceux que les autochtones appelaient des augures, quitta son perchoir de glace et décrivit des courbes dans l'air raréfiées, observant le consul de ses yeux noirs et ronds. Ce dernier sentit soudain que quelque chose lâchait dans les commandes de vol du tapis. Il perdit 30 mètres avant de pouvoir le redresser. Agrippant les bords du tapis de ses doigts blêmes, il se félicita d'avoir attaché le sac à sa ceinture. Autrement, il l'aurait perdu dans un glacier. Il ne voyait plus les câbles du téléphérique. Le tapis avait dérivé pendant qu'il dormait. Il connut un instant de panique, décrivant plusieurs cercles, essayant de trouver un passage entre les pics qui l'entouraient comme des dents pointues. Puis il aperçut les reflets dorés de la lumière du matin sur les pentes qui s'étendaient devant lui et sur sa droite, les ombres qui séparaient les glaciers, la toundra derrière lui et sur sa gauche, et il sut qu'il était toujours sur le bon chemin. Derrière cette dernière ligne de pics devaient se trouver les contreforts des montagnes du sud. Et plus loin, le tapis Hawking sembla hésiter tandis que le consul actionnait ses commandes de vol pour lui faire reprendre de l'altitude. Il obéit, comme à contre-cœur, par paliers, dépassant le pic de 9000 mètres au-dessous duquel les montagnes semblaient réduites à la taille de vulgaires collines à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Puis il redescendit, soulagé. Il retrouva les câbles de téléphérique, luisant au soleil, à 8 km au sud de l'endroit où il avait quitté la chaîne bridée. Les cabines étaient sagement rangées dans la station. Plus bas, les bâtiments espacés du village de repos du pèlerin semblaient aussi abandonnés qu'à son dernier passage, quelques jours auparavant. Il n'y avait aucune trace du chariot à vent qu'ils avaient laissé amarrer à un quai, non loin des hauts fonds de la mer des Hautes Herbes. Le consul se posa non loin du quai, désactiva le tapis Hawking et s'étira les jambes avant de rouler l'engin pour le ranger. Il trouva des toilettes dans l'un des bâtiments abandonnés du port. Lorsqu'il en ressortit, le soleil était déjà sur les contreforts des collines, effaçant les ombres. La mer des Hautes Herbes s'étendait à perte de vue au sud et à l'ouest, formant une plaine verdoyante que troublaient de temps à autre des rafales de vent qui la faisaient ondoyer, révélant les tiges rousses et outre-mer des profondeurs, en un mouvement qui ressemblait tellement à celui d'une vague que l'on s'attendait à voir des moutons et des poissons en train de sauter. Il n'y avait ni moutons ni poissons dans la mer des Hautes Herbes, mais des serpents de 20 mètres de long. Et si le tapis tombait en panne, il ne ferait pas bon tenter un atterrissage de fortune. Il déroula le tapis, posa son sac à l'arrière et activa les commandes de vol. Il demeura à faible altitude, pas plus de 25 mètres, mais pas trop bas non plus, de peur qu'un serpent ne le prenne pour quelque oiseau appétissant. Le chariot à vent avait mis un peu moins d'un jour pour traverser cette mer, mais il avait souvent tiré des bords en raison des vents qui soufflaient fréquemment du nord-est. Le consul était sûr de pouvoir faire le voyage en moins de 15 heures. Il tira sur les fils de commande à l'avant, et le tapis prit un peu plus de vitesse. 20 minutes plus tard, les sommets montagneux étaient loin derrière lui et les collines se perdaient dans la brume. Encore une heure, et les pics commencèrent à s'amenuiser, à moitié cachés par la courbure de la planète. 2 heures après, le consul ne distinguait plus que les hauts sommets, à peine visibles à travers la brume. La mer des Hautes Herbes l'entourait maintenant de toutes parts, inchangée à l'exception des creux et des sillons sensuels causés par les coups de vent occasionnels. Il faisait beaucoup plus chaud ici que sur les hauts plateaux du nord de la chaîne bridée. Le consul ôta son manteau chauffant, puis sa veste, puis son sweater. Le soleil avait une intensité surprenante pour ses latitudes élevées. Il fouilla son sac, y trouva le tricorne froissé qu'il avait porté avec tant d'aplomb 2 jours plus tôt, et l'enfonça sur son crâne pour se donner un peu d'ombre. Son front et son crâne à moitié chauve étaient déjà brûlés par le soleil. Au bout de 4 heures de vol, il prit son premier repas du voyage. Il mordit de bon cœur dans ses insipides rations de protéines, comme si c'était un filet mignon. L'eau constituait la meilleure partie du festin, et il dut faire un effort pour ne pas vider toutes les gourdes en une monstrueuse beuverie. La mer des Hautes Herbes s'étendait partout à perte de vue. Plusieurs fois, le consul s'endormit et se réveilla en sursaut avec la sensation de tomber en chute libre. Il aurait dû s'attacher avec la corde qui se trouvait dans son sac, mais il ne voulait pas se poser pour le faire. Les herbes étaient acérées comme des lames et plus hautes que lui. Bien qu'il n'eût encore aperçu aucun sillage caractéristique en forme de V, il n'avait aucun moyen de savoir si quelque serpent ne l'attendait pas en bas. Il se demandait où avait pu passer le chariot avant. Le véhicule était entièrement automatisé et programmé, en principe, par l'église Grichtek qui avait organisé le pèlerinage. Quelles autres tâches le chariot aurait-il bien pu avoir à accomplir? Il secoua la tête, redressa les épaules et se pinça la joue. Il se rendait compte qu'il dormait par à-coups tout en pensant au chariot avant. 15 heures de voyage, cela ne lui avait pas semblé beaucoup quand il en avait parlé dans la vallée des tombeaux du temps. Mais lorsqu'il consulta son père Soc, il vit que 5 heures à peine s'étaient écoulées depuis son départ. Il grimpa à 200 mètres pour examiner soigneusement les herbes à la recherche d'un serpent. N'en trouva pas et descendit à 5 mètres pour laisser flotter le tapis en vol stationnaire. Sans faire de mouvement brusque, il sortit la corde de son sac, fit un nœud coulant, se pencha vers l'avant du tapis et enroula plusieurs fois la corde autour de celui-ci, en laissant assez de jeu pour se glisser dans la boucle avant de resserrer le nœud. Si le tapis tombait, ses précautions n'auraient servi à rien. Mais le contact de la corde dans son dos lui donnait un sentiment de sécurité dont il avait besoin. Il se pencha pour tirer sur les fils de commande, s'éleva jusqu'à 40 mètres et posa la joue sur les fibres rêches échauffées par le soleil. Il était en train de prendre un terrible coup de soleil aux avant-bras. Mais il était trop fatigué pour se redresser et baisser ses manches. La brise était en train de se lever. Il entendit un bruissement sourd dans les herbes, produit par le vent ou par quelque chose qui glissait. Il avait trop sommeil pour s'en préoccuper. Il ferma les yeux et s'endormit en moins de 30 secondes. Il rêva de chez lui, de sa planète natale d'Alliance Maui. Et son rêve était rempli de couleurs, celle du ciel bleu infini, celle de l'immensité des mers du Sud, celle des hauts fonds équatoriaux où l'outre-mer devenait émeraude, celle des îles mobiles aussi, avec leurs rouges orchidées, leurs jaunes et leurs verts étonnants, tandis qu'elles se laissaient guider vers le nord par les dauphins. Mais les dauphins avaient disparu depuis l'invasion de l'hégémonie durant l'enfance du consul. Cela ne les empêchait pas d'être bien vivants dans son rêve. Ils faisaient de grands bonds dans l'eau, et leur peau irisée jetait 1000 reflets dans l'air limpide. Dans son rêve, le consul était un enfant. Il se tenait au sommet de la maison-arbre familiale de l'île de la première famille. Sa grand-mère Siri était auprès de lui. Ce n'était pas la grande dame à la prestance royale qu'il avait connue, mais la belle jeune fille que son grand-père Mérin avait rencontrée et dont il était tombé amoureux. Les voiles des arbres battaient sous l'action des vents du sud, qui venaient de se lever et qui poussaient devant eux le troupeau d'îles mobiles, en une formation précise, à travers les canaux bleus séparant les hauts fonds. Au nord, à l'horizon, il apercevait les premières îles de l'archipel équatorial qui se découpaient, vertes et impérissables, contre le ciel du soir. Siri lui toucha l'épaule et pointa l'index en direction de l'ouest. Les îles étaient en flammes, en train de sombrer. Leurs racines de quilles se tordaient de douleur impuissante. Les dauphins guides avaient disparu. Le ciel crachait une pluie de feu. Le consul identifia des rayons d'un 1 milliard de volts qui brûlaient l'atmosphère et laissaient sur la rétine des taches rémanentes bleu-gris. Des explosions sous-marines illuminaient les océans, projetant dans les airs des milliers de poissons et de fragiles créatures marines qui se tordaient dans leur agonie. « Pourquoi ?» demanda sa grand-mère Siri avec la voix douce d'une adolescente. Le consul s'efforça de lui répondre, mais il n'y parvint pas. Les larmes l'aveuglaient. Il voulut lui prendre la main, mais elle n'était plus là. Et l'idée qu'elle était partie, qu'il ne pourrait plus jamais racheter ses péchés, lui faisait tellement mal qu'il n'arrivait plus à respirer. L'émotion lui nouait la gorge. Puis il se rendit compte que c'était la fumée qui lui brûlait les yeux et lui envahissait les poumons. L'île familiale était en flammes. L'enfant qui était le consul tituba dans l'obscurité bleutée, cherchant à l'aveuglette une main qui prendrait la sienne pour le réconforter. Une main se referma sur sa main, mais ce n'était pas celle de Siri. Elle était dure, incroyablement dure quand elle le serra, et ses doigts étaient des lames acérées. Le consul se réveilla, haletant. Il faisait nuit. Il avait dû dormir au moins 7 heures. Luttant pour se redresser malgré la corde qui le maintenait, il consulta l'écran lumineux de son persoc. 12 heures. Il avait dormi 12 heures d'affilée. Chaque muscle de son corps lui faisait mal tandis qu'il se penchait pour regarder au-dessous de lui. Le tapis Hawking se maintenait à l'altitude de 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Des collines basses ondulaient sous le tapis, qui avait dû passer à 3 ou 4 mètres du sommet de certaines. Une herbe orange et des touffes de lichens spongieux poussaient au sol. Quelque part, pendant son sommeil, il avait dû franchir la rive sud de la mer des Hautes Herbes, rater le petit port de la Bordure et les docks du fleuve Ouli, où la barge de lévitation Bénarès était amarrée. Il n'avait pas de compas pour s'orienter. Ses instruments étaient inutilisables sur Hyperion. Et son persoc n'avait pas été programmé pour servir d'indicateur de direction à inertie. Il avait prévu de retrouver son chemin jusqu'à Kitts en suivant le Ouli vers le sud et vers l'ouest, afin de reconstituer le laborieux itinéraire de leur pèlerinage à l'aller, exception faite des nombreux méandres du fleuve. À présent, il était bel et bien perdu. Il posa le tapis Hawking sur une colline basse, descendit sur la terre ferme avec un grognement de douleur ankylosée et roula le tapis. Il savait que les batteries des fils de commande avaient dû perdre un tiers de leur charge, sinon plus. Il n'avait pas idée de la perte d'efficacité du tapis avec l'âge. Les collines ressemblaient au paysage que l'on trouvait au sud-ouest de la mer des Hautes Herbes, mais le fleuve n'était nulle part en vue. D'après le persoc, la nuit n'était tombée que depuis 1 heure ou 2. Il ne voyait cependant aucune trace du coucher de soleil à l'ouest. Le ciel était couvert et ni les étoiles ni les feux des combats spatiaux n'étaient visibles. « Merde !» chuchota le consul. Il fit quelques pas jusqu'à ce que la circulation se rétablisse dans ses membres engourdis, urina au bord d'un petit ravin et retourna jusqu'au tapis pour prendre une gourde et boire longuement.
« Raisonne un peu. »
Il avait orienté le tapis selon un itinéraire sud-sud-est qui aurait dû le faire sortir de la mer des Hautes Herbes à peu près à hauteur du port de la Bordure. S'il avait dépassé ce point pendant son sommeil, il devait maintenant avoir le fleuve au sud, c'est-à-dire à sa gauche. Mais s'il avait mal calculé sa trajectoire en quittant le repos du pèlerin, s'il avait dévié seulement de quelques degrés sur la gauche, le fleuve pouvait se trouver quelque part au nord-est, sur sa droite. Même s'il se dirigeait dans la mauvaise direction, de toute manière, il finirait bien par tomber sur un repère. Il atteindrait, en tout état de cause, la partie nord de la crinière. Mais cela risquait de le retarder d'un jour entier. Il donna un coup de pied rageur dans un caillou et croisa les bras. L'air était frais après la chaleur du jour. Un frisson lui fit prendre conscience des coups de soleil qui le rendaient fiévreux. Il toucha son crâne et retira ses doigts avec un juron.
Quel côté !
Le vent sifflait dans les buissons et les lichens. Le consul se sentait bien loin des tombeaux du temps et de la menace du Gritch, mais il sentait la présence de Sol et de Durée, de Hetmastin et de Braun Lamia, ainsi que celle du poète Silénus et de Cassade, disparus, comme un poids pressant sur ses épaules. La participation du consul au pèlerinage avait été un acte de nihilisme final, un suicide inutile destiné uniquement à mettre un terme à ses propres souffrances. Souffrances causées par la perte du souvenir même de sa femme et de son enfant, tués durant les opérations de l'hégémonie sur Brescia. Souffrances dues également à l'idée insupportable d'avoir trahi le gouvernement qu'il servait depuis près de 40 ans et d'avoir trahi aussi, par-dessus le marché, les extros qui lui avaient fait confiance. Assis sur un rocher, il sentait cependant l'inutile haine qu'il éprouvait envers lui-même diminuée à la pensée de Sol et de son enfant qui l'attendait dans la vallée des tombeaux du temps. Il songea à Brown, cette femme courageuse, l'énergie incarnée qui gisait, impuissante, avec ce tentacule du Gritch planté dans son crâne comme un serpent maléfique. Il s'assit, activa de nouveau le tapis et s'y installa. Il grimpa à 800 mètres, si près du plafond nuageux qu'il aurait presque pu le toucher en levant la main. Une éclaircie d'une seconde dans les nuages au loin sur sa gauche lui permit d'entrevoir un éclat argenté. Le fleuve Ouli était à environ 5 km au sud. Il inclina fortement le tapis sur sa gauche. Il sentit que le champ de confinement peinait pour le maintenir collé à l'engin, mais la corde qu'il avait de nouveau nouée autour de lui lui donnait un sentiment de sécurité. 10 minutes plus tard, il volait au-dessus de l'eau, descendant pour s'assurer qu'il s'agissait bien du Ouli et non d'un quelconque affluent. Il ne s'était pas trompé. Les nombreuses diaphanes brillaient dans les herbes basses des rives marécageuses, et les hautes tours crénelées des fourmis architectes profilaient leurs silhouettes effilées et fantasmagoriques contre un ciel à peine plus foncé que la terre. Le consul regrimpa à 20 mètres, but un peu d'eau à sa gourde et lança le tapis vers l'aval à pleine vitesse. L'aube se leva alors qu'il avait dépassé le village de Doukhobor, un peu avant les écluses de Karla, à l'endroit où le canal de transport royal obliquait vers l'ouest en direction des zones urbaines du nord et de la crinière. Le consul savait qu'il se trouvait à moins de 150 km de la capitale, mais cela signifiait encore 7 heures de vol sur ce tapis à la lenteur déprimante. Il avait espéré trouver, à ce stade du voyage, un glisseur militaire en patrouille ou un dirigeable des lignes régulières du bosquet des Naïades, ou encore une vedette rapide qu'il aurait pu réquisitionner. Mais il n'y avait pas le moindre signe de vie sur les rives du Ouli, à l'exception d'un occasionnel bâtiment en flammes ou de la lueur des lampes à graisse derrière des carreaux lointains. Plus une seule embarcation n'était visible le long des quais. Les enclos des mantas, en amont des écluses, étaient vides. Leurs grandes portes battaient avec le courant, et aucun chaland n'était amarré à l'endroit où le fleuve s'élargissait à deux fois la taille qu'il avait en amont. Proférant un juron, le consul poursuivit son chemin. La matinée était splendide. Le soleil levant illuminait les nuages bas et silhouettait chaque buisson et chaque arbre de ses rayons obliques, presque horizontaux. Le consul avait l'impression d'être resté des mois sans contempler une vraie végétation. Des vortes et des demi-chênes se dressaient à des hauteurs majestueuses, au sommet des falaises lointaines. Dans la plaine alluviale, la riche lumière faisait briller des millions de jeunes plantes périscopes dans leurs rizières indigènes. Les rives étaient bordées de racines de tuviers et de fougères à feu, dont chaque branche se découpait à la lumière incisive de l'aube. Les nuages engloutirent le soleil. Il se mit à pleuvoir. Le consul enfonça sur sa tête le tricorne cabossé, s'emmitoufla dans le manteau chauffant de Cassade et grimpa l'altitude de 100 mètres pour continuer son voyage en direction du sud-ouest. Il essayait de se rappeler. Combien de jours restait-il à Rachel? Malgré le long somme qu'il avait fait la nuit dernière, le consul se sentait l'esprit lourd de toxines de fatigue. L'enfant avait 4 jours à leur arrivée dans la vallée. Depuis, il s'était écoulé 4 jours. Il se frotta la joue, sortit une gourde, puis une autre. Elles étaient toutes vides. Il aurait pu descendre les remplir dans le fleuve, mais il ne voulait pas perdre de temps. Les endroits de sa peau où elle avait été brûlée par le soleil lui faisaient mal, et il frissonnait lorsque la pluie dégoulinait dessus, débordant du tricorne. Sol a dit qu'il suffisait que je sois de retour avant la tombée de la nuit. Rachel est née après 20 heures, en temps aligné sur celui d'Hyperion. Si le calcul est exact, il me reste jusqu'à ce soir. Il essuya l'eau qui lui coulait sur le front et sur les joues. Disons 7 heures pour arriver jusqu'à Kitz, 1 heure ou 2 pour récupérer le vaisseau. Théo m'aidera. Il est gouverneur général à présent.
Je saurai le convaincre que c'est dans l'intérêt de l'hégémonie qu'il doit annuler l'ordre de Gladstone de maintenir mon vaisseau en quarantaine. Si nécessaire, je lui ferai croire que c'est elle qui m'a ordonné de conspirer avec les extros pour trahir le Retz. Mettons 10 heures en tout, plus 15 minutes pour retourner là-bas avec le vaisseau. Cela devrait me laisser 1 heure de marge avant la tombée de la nuit. Rachel ne sera alors âgée que d'une 15 minutes, mais... Qu'est-ce que nous ferons ensuite ? Quelle possibilité nous restera-t-il, à part les caissons de fût cryotechniques du vaisseau ? C'est la seule chose que nous pouvons tenter. Cela a toujours été la seule chance de sol, malgré les mises en garde des médecins qui disent que cela pourrait tuer l'enfant. Mais il reste encore le problème de Brown. Le consul avait très soif. Il ouvrit son manteau. La pluie avait diminué. Il ne tombait plus que quelques fines gouttes, à peine suffisantes pour s'humecter les lèvres et la langue, ce qui lui donnait encore plus soif. Il lança un juron à voix basse et commença à descendre lentement. Il réussirait peut-être à raser suffisamment la surface du fleuve pour remplir une gourde au passage. Le tapis Hawking cessa de voler à 30 mètres au-dessus du fleuve. Un instant, il descendait doucement, comme un tapis posé sur une surface de verre inclinée, et l'instant d'après, il se mettait à tomber en vrille, incontrôlable, comme une carpette balancée par la fenêtre du 10e étage avec son occupant terrifié. Le consul se mit à hurler. Il voulut sauter dans le vide, mais la corde le retenait, et le poids de son sac déséquilibrait le tapis dans sa chute. Il tournoya sur une 20aine de mètres avant de heurter durement la surface de l'eau.